Apéro sur les deux autres séries à deux matchs joués.
Ouais, on sort d'une petite nuit à deux matchs. Hein. En ce moment, les demi-finales de conf. Il y a deux matchs par soir. À moins que le calendrier bouge, ça va être comme ça un peu tout le temps.
Ça devrait être comme ça.
Je me demande s'il n'y a pas un jour de pause, non ? Quand on change de ville, là. Non, attends, fais voir le calendrier.
Jusqu'à dimanche, on va se régaler. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Dimanche soir inclus.
Ça va être la régalade et ensuite on verra sur la semaine prochaine ce que ça donnait, notamment quand il y a des changements de ville et aussi quand il y a des séries qui se terminent un peu plus tôt que prévu.
Ça va dépendre si les séries se terminent un peu plus tôt que prévu ou pas, effectivement. Ouais.
Exactement. Ce qui est sûr, c'est que le marathon continue sur Trash Talk. On est tous les jours ensemble. Ça, c'est formidable.
C'est
et on enchaîne. On espère que vous allez bien, toutes et tous. On espère que la Cas Nation se réveille avec un Doliprane, avec un Efferalgan. Avec
un smecta.
Bah,
en fait,
avec du Zoloft.
Ça dépend. Tout dépend. Il y a plein de choses à discuter. Mais effectivement, il y a des choses qui ne passent pas. Moi, j'étais sur le match hier et je voyais bien un peu les gens réagir. Et il y a des choses qui passent pas, notamment dans le quatrième quart. On va en reparler côté Cavs. Et qui vont être très difficiles à digérer parce qu'en plus, c'est typiquement le genre de truc qui, dans deux matchs, on se retourne dire c'est quand même con de pas avoir pris le game 2 à Détroit, hein, parce qu'il y avait moyen.
Bien sûr.
Voilà.
Plein de choses à avoir débriefé.
On était un petit peu devant en tout début de quatrième quart.
Ah, ça, tu sais.
On était en place.
Ah oui, en plus il y a les similitudes aussi entre le game 1 et le game 2. Enfin, on va
voir. Il y a des grosses, il y a des gros points communs, ouais. On est d'accord.
Mais il y a eu deux séries de jouer hier soir. On va faire un gros focus sur Cavs Pistons, mais aussi on souhaite le bonjour aux fans du Thunder. Petite brioche, petit café.
J'ai déjà Tom Grenet avec moi là.
6 matchs, 6 victoires, tout va très très bien. Encore qu'il y aura aussi là des choses à dire parce que les Cavs ont envoyé un beau fight.
Ouais, ça envoie du fight. C'est une série qui est les matchs sont plus intéressants que ce que j'aurais pu penser. En revanche, le résultat, c'est assez carré. Quoi.
Si vous êtes numéro 1 de votre conférence sur la saison régulière, sachez que vous avez passé une bonne soirée et que pendant les séries démarrent bien en demi-finale puisque Pistons et Thunder ont assuré. Avant ça, petit rappel, on en a parlé hier et ça y est, c'est balancé sur tous les réseaux. Je serai dimanche à 21h sur Twitch et plus précisément à partir de 20h30 avec Simon et Robin. Simon, le roi des Kings, Robin, le directeur général des Bulls, pour suivre cette grande loterie de la draft 2026.
Quoi ? Bah non, mais ça va être très rigolo.
Qu'est-ce qu'il a ?
Surtout qu'on a pas mal de.
Ça va être génial.
Il y a une loterie avec. Qui est très importante parce qu'il y a beaucoup de très bons joueurs dans cette draft. Donc pour certaines équipes qui ont des grosses probabilités, c'est-à-dire c'est qui ? C'est Indiana ?
Je vous le mets tout de suite, Washington, Indiana, Brooklyn, voilà, Utah, Washington, Sacramento, Indiana, Memphis, tout ça.
Pour une de ces équipes là que tu viens de citer, sortir du top 6, ça serait un peu une catastrophe parce que là on est sur une draft où honnêtement le top 6...
Ah, c'est très fort.
C'est très fort et,
très et
on verra.
Talent toujours.
On verra lesquels seront les plus forts. Est-ce que ça sera Darin Peterson? Est-ce que ce sera AJ DiBanza?
Caleb Wilson?
Est-ce que ce sera Akuff Jr.?
Absolument.
C'est comment son prénom déjà? Je me rappelle. Je l'ai plus.
Darius Akuff.
Tout à fait.
Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous expliquera tous les joueurs, les protections sur les pics. Vous débarquez à partir de 20h30 ce dimanche. Ça va être exceptionnel. On va vivre tout ça ensemble. Et comme je l'ai dit, notamment en story sur Insta, on profite de ce système une dernière fois, puisqu'à partir de l'année prochaine, on débarque dans les profondeurs abyssales de la merde obscure avec les nouvelles réformes qui auront lieu en NBA. Voilà, il y aura des choses positives et des choses moins bonnes. On en reparlera aussi, comme on l'a dit.
Et vive les gros marchés.
Et vive les gros marchés. Rendez-vous dimanche, puisqu'on le rappelle, il y aura ce magnifique événement à vivre tous ensemble sur Twitch. Je rappelle aussi, puisque ça concerne notamment là les événements de ce week-end, que là on va parler de Cavs Pistons et qu'on a un game.
Game
samedi soir à 21h.
C'est samedi du coup. Attends, bouge pas.
Comme je disais hier, je crois.
Attends, j'arrive.
C'est samedi cette affaire.
C'est samedi à 21h, tout à fait. Et dimanche à 21h30, on a le 4 de Knicks Sixers. Enfin, ça sera un Sixers Knicks du coup.
Gros week-end. Profitez-en parce que on le sait à partir de mi-mai, généralement les US disent. Merci l'Europe. Voilà,
c'est
vous avez
le
bien
dernier
profité.
Week-end, je pense peut-être le week-end prochain.
Ah, s'il y a du Game 7 de demi, je te rappelle que Kawhi Leonard,
c'est vrai. Kawhi Leonard, le shoot de Kawhi, il était pas si tard que ça.
C'était pas très tard.
Non.
Donc on profite puisque après les Américains vont reprendre leur prime time et que ce sera donc à 2h, 3h du matin comme d'habitude. Ouais. Est-ce que t'es chaud ?
Ouais, je suis prêt. Tu veux qu'on commence par où ?
Est-ce que tu connais le Michigan ? 2-0 pour Détroit dans cette série. Deux matchs joués déjà du côté de Détroit et deux victoires de 10 points. Le premier, c'était donc le 5 mai. Victoire 111 à 101. On va y revenir.
Ouais.
Et puis hier soir, victoire de 10 points également, 107-97. par quoi commencer en fait? Parce que on est sur un 2-0 Pistons, très bien, pour Détroit. Super bien géré par les Pistons.
Ouais.
Est-ce qu'on commence par eux avant de sortir le, le briquet,
oui,
et les couteaux?
En fait, et même, je veux dire, Détroit, tout n'est pas parfait. Il y a des choses qu'ils vont devoir, qu'ils peuvent et qu'ils vont devoir améliorer. Genre, c'est vrai que là, par exemple, Cade Cunningham fait le boulot en attaque, mais il n'est pas si mal défendu que ça, finalement. Ce n'est pas forcément par là que je commencerai côté... tu vois, je trouve que l'organisation défensive des Cavs autour de Cade Cunningham, c'est correct. D'ailleurs, il n'est pas sur des pourcentages de fou. Au premier match, il est à 6 sur 19 au tir, tu vois. Il met 23 points, mais il est à 6 sur 19 au tir. Et au deuxième match, il met 25 à 7 sur 14. Il prend beaucoup moins de tirs. Il est beaucoup plus propre au deuxième match, oui. Même s'il perd toujours un peu de ballon et tout. Mais il y a des choses qu'ils ont améliorées en cours de match, qu'ils vont devoir et qu'ils continuent d'améliorer. C'est comment tu travailles autour de Cade Cunningham. Et là, j'en arrive à un point positif. C'est que je trouve que bon, il y a Tobias Harris. Bon, c'est les playoffs de Tobias Harris. Ouais, mais c'est intéressant. Duncan Robinson au game 2. Danis Jenkins qui sort de sa boîte lors des deux matchs. Là, ils ont trouvé un sixième homme, tu vois, par exemple. Ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant.
Sur le premier tour, ouais.
Comment ?
Sur le premier tour, il y avait eu des difficultés par rapport à ça contre Orlando. Et là, ils retrouvent un petit peu une forme d'équilibre dans la rotation et les apports en sortie de banc, ouais. Même
et voilà.
Caris Laverte, hein,
ouais.
Ron Holland et tout. Enfin, il y a eu des supers entrées.
Ils ont toujours un peu de mal à vraiment mettre en action Jalen Duren.
Oui, ça.
Ça continue.
Mais il y a du mieux dans certains aspects.
Il y a
du
un
jeu.
Peu de mieux, ouais. Notamment au rebond. Duren montre un peu plus de dureté. Ou est-ce que c'est parce que aussi c'est plus facile de s'exprimer face à la raquette des Cavs que face à la raquette du Magic ? Voilà. Moi, je dis ça. On va en rediscuter, mais ils ont toujours un peu de mal, tu vois, genre ils ont un peu de mal, enfin Jalen Duren il a mis ça, c'est le game 2 là qu'on a
là,
sous
il
les
a
yeux.
8 points et 10 rebonds
sur le
game
2. Il en met 12 au game 1, je crois,
et,
comme
oui,
ça.
Oui, la part offensif de Jalen Duren reste pour le moment timide
donc,
par rapport à
c'est
ça
pas mal parce qu'on avait dit au premier tour que le Magic avait bien géré pour faire chier les Pistons et tout et on voit bien que les Cavs ont regardé un peu la vidéo, enfin le staff des Cavs a regardé un peu la vidéo de ce qu'a fait le Magic et a reproduit pas tout à fait la même chose mais en gros des principes un peu similaires sauf que manque de peau pour eux. Tobias Harris ça continue, Duncan Robinson il arrive à mettre dedans, Cade même le match 1 où il shoot pas très bien il arrive quand même à exister, à trouver des lancers, des passes, enfin, c'est Cade Cunningham quoi.
Deux money time de suite où le patron c'est vraiment Cade, il est très fort dans le money time,
c'est le meilleur joueur de la série là, sans aucune discussion.
Après bon courage pour le deuxième. Moi je suis très séduit et chapeau par l'approche des Pistons sur ce début de série. Vraiment, parce que comme tu le dis bien, il y a des choses à améliorer.
Il y a des petites choses, c'est ça que je voulais dire.
Tout
mais
à fait.
Dans l'ensemble, c'est très très bien.
Je trouve ça vachement bien parce qu'en fait, il y a 8 jours, on était en train de se dire plus one lead, Orlando.
Il
n'y
a pas si longtemps, voilà, exactement.
Il y a eu, tu en as parlé de la bascule sur cette mi-temps du Game 6 à Orlando où ils ont fracassé le Magic et le Game 7, ça les a aussi rassurés.
Ouais.
Moi, je trouve que quand tu regardes Détroit, sur l'approche de la série, pour le moment, en deux matchs, c'est formidable.
Bah,
c'est-à-dire que
100 points.
Comment ?
Ils prennent pas beaucoup de points. Enfin, 100 points et 97 contre les Cavs, c'est bien.
C'est formidable. Tu défends très très bien sur tes axes principaux et tes forces, c'est-à-dire très grosse provocation de perte de balles, notamment sur le Game 1, 20 ballons perdus par les Cavs, ils sont hyper agressifs.
Ouais, mais alors là, par contre,
on va y venir. On va y venir. Mais juste, je donne des fleurs à Détroit.
Ouais. Vas-y.
Avant qu'on sorte.
Mais
de
cette fleur-là, je veux dire, bravo Détroit, c'est bien.
Franchement, le plan défensif pour le moment de Détroit
avec
sur
Ossar et tout,
Ossar, l'entrée de Ron Holland,
oui,
la façon dont Cade Cunningham aussi parfois a été placé sur Harden pour venir aider les missions de Ossar Thompson quand
les doubles très hautes sur Donovan Mitchell et tout. Non, mais
les efforts de Jalen Duren aussi dans la raquette dans les quatrième quart-temps, il a été très très solide. Chacun connaît son rôle. Moi, c'est un des trucs sur lesquels on va parler côté Cleveland qui je trouvais superbe sur les deux premiers matchs de Détroit, c'est chaque joueur sait ce qu'il doit faire et il le fait.
Même Caris LeVert ou des mecs qui jouent pas beaucoup, tu vois, genre.
Non,
là, t'as parlé de Ron Holland qui ressort parce que Ron Holland
il a pas joué du premier tour.
Tu vois, voilà. Donc,
superbe entrée.
Ou Isaiah Stewart, c'est pas une surprise, mais même si les stats sont pas flamboyantes, le taf il est là.
Chacun sait ce qu'il doit faire. Javonte Green fait le boulot. Tu sais ce que va faire Duncan Robinson, il le fait. Tobias Harris aussi. Jalen Duren, en effet, il y a des progrès attendus, mais je trouve que Détroit à regarder le début de série et m'a semblé se dire on peut être l'équipe la plus physique et autant contre Orlando il y avait un duel physique et d'intensité très très fort, autant là on va reparler avec les Cavs, moi je trouve que vraiment ils rentrent dans la gueule aux Cavs.
Ils les dominent sur ce sujet.
Ils les dominent fort et c'est ce qu'ils devaient faire, ils le font. Et très gros point de satisfaction pour moi par rapport à cette équipe dont on a parlé de playmaking, de money time, d'inexpérience, de matchs serrés, sur lesquels il y a notamment égalité à 5 minutes de la fin, de matchs que Détroit finit fort à domicile.
Finit fort à domicile.
Ça, chapeau. Ça, c'est,
et
c'est pas dans les mieux.
Deux grandes raisons à cela. La première, on en a déjà parlé, c'est Kate Cunningham. Parce que même si dans les matchs, comme dans le match 1, dans le match 2, il est très propre, mais dans le match 1, il est moins propre, mais il trouve les lancers, les bonnes passes, les bonnes différences, ah ouais, les bons petits tirs à mettre pour faire mal et pour faire mal à l'adversaire et pour faire gagner son équipe dans le Money Time, deux fois.
Il a vachement bien servi Jalen Duren sur le Game 1.
Et aussi, dans le Money Time, il y a une des deux équipes qui a compris par quoi il fallait passer pour gagner un match à la fin. Il faut faire un stop et derrière marquer. Pour marquer, ils s'en remettent beaucoup à Kate Cunningham dans le Money Time, et c'est assez logique.
Du Tobias aussi, hein.
Et à Tobias, bien sûr.
Du post-up et tout sur les mecs plus petits.
Ils utilisent des mismatchs, mais les mismatchs au départ, c'est, il y a une lecture, il y a quelques, ça part beaucoup de Kate Cunningham, mais t'as raison, ça passe pas mal par Tobias, je suis complètement d'accord. Voir un petit shoot dans le corner d'un mec ouvert et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant ça, il y a un travail collectif de non, attends. On va les faire déjouer.
Ouais.
On va les faire déjouer. On va générer une perte de balles. On va générer un tir compliqué pour un mec des Cavs, et on va bien verrouiller le rebond comme ça derrière.
Zéro.
Voilà.
Absolument.
C'est ça. Et donc, les Pistons ont compris par quoi il en passait d'aller en finale de conf. Et quand on regarde jouer les Cavs dans les Money Time, et notamment au match 2, match 1, je sais pas quoi en penser, ça peut arriver. Enfin, voilà. Mais le match 2, c'est la même quasiment, les gars. C'est-à-dire que les Pistons, ils ont pas ajusté. Normal, ils ont gagné 10 le match 1, tu vois. Mais donc, c'est quoi? Donc, les Cavs n'ajustent pas trop non plus, en fait. Là, ça lui va, Kenny Atkinson. Il est content. Ça lui va. Tu vois, le mec
il
n'a
est content.
Pas tellement touché à ses rotations. Franchement, vite fait. Moi, je suis un peu choqué. Enfin, choqué, peut-être un grand mot, mais je suis un peu quand même surpris.
Moi, je suis déçu. Hein.
Sans aller, déjà, on va aller plus loin, mais déjà, juste en surface, les minutes, la répartition de minutes à Cleveland, c'est quoi?
Quelqu'un veut jouer?
On est en janvier.
Moi, j'ai l'impression de regarder un match de mars. Exactement. J'étais sur le chemin, je me disais, attends. Le match qu'on vient de voir là, c'est un match de saison régulière des Cavs ou un match de playoff?
Là, par exemple, on a beaucoup critiqué Donovan Mitchell ces derniers temps contre le Magic. Au match 1, il a pas pesé comme il aurait pu. Là, il fait un bon match 2. Hein. Oui. Donovan Mitchell, il a pas rigolé. Ouais. Il était venu pour essayer d'en gratter un à Détroit. Ouais. Il y a des moments où il sort. Moi, j'étais devant, j'étais là, genre, quoi? Mais pourquoi? Ah, tu veux jouer avec Harden Levert? Ou non, s'il l'a fait, ça, je crois. Enfin, en tout cas,
Levert côté Pistons.
Non, pas Harden Levert. Levert côté Pistons. Harden Schroeder, où il a fait du. Enfin, en tout cas, au-delà même de ce qu'il fait derrière, il y a des timings lors desquels il sort Donovan Mitchell que je trouve incompréhensible. Mais vraiment incompréhensible.
Ah, mais je te suis, hein.
Vraiment. Et ça me travaille. Et après, quand tu regardes, tu vois par exemple les Pistons. Bon, bah Kate Cunningham, il joue 40 et quelques minutes par match. Bah oui, c'est les playoffs, quoi. C'est les putains de playoffs. On a les minutes sous les yeux là.
37 minutes de Tobias Harris, 37 de Duncan Robinson, 42 de Kate Cunningham. De l'autre côté, on a, allez, 37 et 37 de Harden et Mitchell, 36 de Evan Mobley. À la limite, les Toto, bon, ouais, on peut toujours discuter.
Moi, je trouve que Mitchell doit jouer au moins 40 minutes dans le genre de match. T'es en galère.
Et on peut y
tu
aller.
Tu peux peut-être le prendre.
Bien sûr.
En début de quatrième quart, il y a un moment où ils passent devant les Cavs. Ils sont à plus 2, plus 3. En tout début de quatrième quart, là, dans le match 2. Là, honnêtement,
appuie.
Donovan Mitchell doit à peine sortir du terrain.
Et il est chaud.
Mais vite fait, il est chaud, il est là. Et puis, malgré les grosses défenses qu'il a parfois, il a même souvent Ausar Thompson en premier rideau, malgré ça, il arrive lui à passer un peu l'épaule, à faire quelques différences, à aller chercher quelques lancers. Enfin, en gros, c'est Donovan Mitchell quand même, quoi.
Je suis content que tu mettes ce point sur la table parce que.
Je comprends pas, moi. J'avoue,
je pense
j'étais un
que Kenny Atkinson est le premier à se faire pas mal malmener là, par la Cavs Nation
et
par
l'Observateur. Hein.
Et là, c'est mérité.
Oh, ouais.
Et encore, j'ai envie de te dire, dans la continuité de ce que tu expliques là, qui est très précis sur Donovan Mitchell, moi, au Game 1. La remontada qui se passe au quatrième quart avec, tu sais, un espèce de run, l'un des rares moments bons de James Harden.
C'est quoi ce 5 qu'il y a sur le terrain là, qu'il y a Atkinson à ce moment-là?
Alors, à la limite, le run, quand tu reviens, il y a Jalen Tyson, il y a Jarrett Allen qui avait des problèmes de faute mais commence à imposer un peu physiquement, parce que Allen, il tient physiquement sur ce type de série. Il est capable parce qu'il est long, il est athlétique, il se bat, il crée des secondes chances, donc à la limite, tu peux.
Ah bah, tu sais pas qu'à la limite, c'est qu'il doit passer beaucoup de temps sur le terrain.
Exactement.
Jarrett Allen.
Le run a lieu et là, on sort Jarrett Allen. On remet solo Evan Mobley Et du coup, qui va au buffet ? Jalen Duren.
Bah ouais.
Et j'étais là genre, mais frérot, pourquoi est-ce que tu fais ces rotations-là ? Il y a beaucoup de moments, j'avoue, comme toi, sur le début de la série, où je me dis, mais...
Non, mais
quand
moi...
les joueurs sont sur le terrain, est-ce qu'ils sont au courant qu'ils doivent avoir cette rotation à ce moment-là
ça,
ou pas ?
Et moi, j'ai l'impression qu'on est dans les Châteauroux Trash Talker sur Touquet et que les rotations sont programmées et que, et que voilà quoi. Il y a pas
mais
de.
Je sais pas si les joueurs sont au courant.
Il y a pas d'adaptation. Il y a pas de. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Donc ça, vraiment, c'est vraiment un côté comment dire. C'est le côté surface et tout. Après, faudrait aller plus loin. Peut-être qu'il y a un plan derrière ça et tout. Mais s'il y a un plan, bah, il marche pas objectivement. Hein, tu vois. Donc voilà. Et vraiment, les minutes. C'est un indicateur tout con, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es en play-off, t'as un truc qui marche. Si c'est avec Mitchell Allen que tu dois les faire pour en gratter un des trois, bah voilà, 40
Allen.
Minutes chacun.
Ah,
hein.
C'est comme
allez,
ça.
Allez, c'est des athlètes fait. Professionnels. Hein.
Et si tu te rends compte que, notamment de l'autre côté, Détroit comprend très bien sur qui ils doivent cibler bah. Défensivement, peut-être que tu t'ajustes et qu'on ne met pas tous les égos sur la table et on se rend compte que certains profils sont meilleurs. Formidable Max Truss sur le Game 1. Il aurait eu le ballon du match s'il l'avait emporté hein, parce qu'il est énorme
ouais,
sur le Game 1.
Ouais.
Sur le Game 2, gros Donovan Mitchell, mais c'est vrai que quand on
Allen,
cas,
hein, gros Allen.
Et gros Allen, ouais. Tout à fait. Et Game 1, Evan Mobley solide. Game 2, il a joué Evan Mobley sur le Game 2
ou pas ? Oh oui, attends, t'es dur.
Non, mais c'est une punchline, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Evan Mobley, ça a été plus compliqué sur le Game 2.
Ah oui, 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 ça a été plus compliqué sur le Game 2. En fait, le problème qu'il y a aussi. Bon, tu sais quoi, je vais le défendre un peu, hein, vite fait. Le problème aussi, c'est que quand Harden fait ce genre de match et que Atkinson le laisse sur le terrain 30, autant que Mitchell, hein,
37.
Voilà, pas de problème, 37 minutes chacun. James Harden et Donovan Mitchell ont joué autant de minutes au game. Non, 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 on est en playoff, là c'est évident que c'est pas possible. Ça aide pas Mobley, parce que le spacing du coup est quand même plus compliqué. Du coup, il se retrouve à jouer un peu en catch and shooter en attaque. J'exagère un peu, mais à peine. Ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y a vraiment des phases de jeu où grâce à sa mobilité et sa capacité à aller finir de près avec les mains quand même très correctes qu'il a et tout, il y a des choses à exploiter pour les Cavs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que dans cette série, il faut les utiliser ensemble, les deux bigs. Il faut
ça
les utiliser ensemble. Il y a besoin d'aller à la maillotche, là. Il y a des clients de ouf en face, là. Donc là, il faut ensemble. Mobley tout seul, ça galère. J'ai vu beaucoup de gens dire, il a pris qu'un seul rebond. Alors, c'est pas normal qu'il prenne qu'un seul rebond. Mais genre, il y a un moyen, au moment donné, de l'aider aussi. De l'aider sur ce sujet. Et il y a un dernier sujet, quand même, qui va, pour le coup, là, en sa faveur à Mobley. Il bouge des trous. Hein. Il bouge des trous, il intercepte, il contre, il gêne, il protège son cercle. En gros, défensivement, j'ai pas tant de choses que ça à lui reprocher, un peu. Et offensivement, oui, il fait pas son match. Et puis notamment, en plus, globalement, au rebond, ça va pas. Donc c'est pas un bon match d'Evan Mobley. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que pour le coup, dans ma hiérarchie de dans quel ordre je balance les tomates, je commence pas par Mobley.
Non, non, c'est Kenny Atkinson en 1.
Et Harden, là, sur ce match 2.
Et Harden,
sur le match 2, là.
Qui...
obligé, là, pas le choix.
Bien sûr. Et puis même, un petit peu, en fait, il y a eu ce moment du 4ème quart dans le Game 1 où il y a eu un run de Harden, mais sinon, sur les 8 cartons qui ont été joués, on va pas se mentir, il y en a 7.
Oula, attends, c'est chaud.
C'est hyper compliqué. Et autant sur le premier round. On lui avait donné quelques fleurs parce qu'il avait pu aider notamment ses Cavs quand il y avait des limitations, parce que Donovan Mitchell d'ailleurs était en difficulté sur le premier tour. Autant là, Harden, il est à côté de ses pompes. Il perd un nombre de ballons atroce. Défensivement, on retrouve des situations sur lesquelles il faut revenir en défense et on souffle. Et oui, sur les choix offensifs, tu vois que la pression défensive et le très bon plan de jeu mis en place par ses Pistons le fait totalement déjouer.
Totalement déjouer et fait déjouer le staff aussi.
Ouais.
Parce que là, c'est aussi au staff. C'est qu'il y a un moment donné où tu as parlé tout à l'heure de pas ménager les égos et tout. Bah, à un moment donné, là, si Harden recommence un peu ce genre de match, un peu dans le match 3, Kenny Atkinson et son staff doivent avoir le courage de dire voilà, désolé, bah, mon poteau, le 5, là, c'est serré. Donc là, maintenant, on va mettre sur le terrain, je sais pas moi, donc Mitchell, Mobley, Allen. Tu mets Struss ou Dean Wade pardon, dans l'aile, et là tu me mets pas James Harden à côté de Mitchell. Tu me mets qui tu veux, Keon Ellis,
oui.
Jalen Tyson, je m'en fous. Un autre gars, un gars qui va être évidemment moins fort individuellement en dribble et tout, machin, mais tu vas peut-être trouver un peu Mobley différemment. Tu vas avoir un jeu de 100 ballons qui va être meilleur, et finalement, je suis pas sûr que t'attaques moins bien face à cette défense de Détroit, en tout cas par rapport au match 2, parce que là c'est vraiment ce qui leur a manqué, c'est que dans le quatrième quart, quand ils passent devant, doit y avoir 79 partout, 80 partout, enfin autour des 80 points, et un moment où Cleveland passe devant.
Ouais.
Et là, Détroit fait verrou. Cavs n'arrive plus trop à attaquer, et de l'autre côté, c'est le Cade Cunningham Show avec Tobias Harris qui joue les mismatchs.
Non, tout à fait, tout à fait.
C'est pas possible. C'est pas... il pouvait le prendre.
Ah, mais y a... de toute façon, c'est.
Le Game 2, il pouvait le prendre, là, les Cavs. Hein.
C'est un des aspects sur lesquels j'ai envie à la limite de caresser les fans des Cavs dans le sens du poil, ou en tout cas de leur apporter un peu d'optimisme. C'est que tu perds deux matchs serrés avec une marge de progression certaine quand même sur la série.
C'est-à-dire que si tu joues moins bien là, ça va être compliqué.
Si tu joues moins bien
là, attention.
Il va y avoir une autre vidéo la semaine prochaine, elle va être salée. Mais là, je pense Alex, on peut être d'accord quand même sur le fait que Cleveland là perd deux matchs dans lesquels il y a égalité à 4-5 minutes de la fin et sur lesquels ils peuvent se dire on peut vraiment nettement mieux jouer, on peut mieux jouer offensivement. Et moi, il y a un aspect, j'avoue, qui m'a frappé quand on disait en rigolant tout à l'heure qu'on dirait un match du mois de mars ou du mois de janvier, c'est que quand Détroit a affronté Orlando au premier tour, on a dit qu'il y avait un clash notamment d'identité sur l'aspect très intense, physique, et Orlando, en tenant le regard face à Détroit sur cet aspect-là, qui est un aspect très important de la réussite des Pistons, a emmené la série en 7, parce qu'ils sont très intenses. Cleveland s'est retrouvé face à une équipe de Toronto qui les a un peu bousculés,
bien bousculés,
et on est allé en 7. Détroit se retrouve là sur le début de série, je trouve, sur les deux premiers matchs. Si vous faites les replays, c'est assez flagrant sur les deux premiers. Ils sont totalement libres de pouvoir bousculer et malmener ces Cavs, et il y a très peu de répondants.
Il y a pas de répondants.
Et du coup, ça va grave à l'avantage des Pistons. Et donc là, moi, j'allais te poser la question, en l'état, c'est aussi de la préparation de match, mais quels sont les joueurs que tu as envie d'envoyer côté Cavs pour tenir ce choc physique et d'intégrité athlétique face aux Pistons, tu vois? C'est que c'est compliqué. Qui sont les gars qui ont envie de partir à la guerre?
Il faut Mobley et Allen.
Déjà, double big,
on est grand, t'es deux grands, là. Ça peut les faire chier, en plus, ça. C'est bien de la taille, tu vois. Isaiah Stewart, c'est un remplaçant qui n'est pas si grand. Tobias Harris, il est grand, mais il est moins grand que Mobley. Enfin, tu vois, Allen, il doit être au moins aussi grand, voire plus grand que Jalen Duren, même si Jalen Duren, c'est un putain d'athlète, bully et tout.
Mais Allen est.
Mais voilà. Donc, t'es grand. Après, j'aime bien. Faut voir, mais moi, je pense que des Jalen Tyson et des Keon Ellis doivent avoir plus leur mot dans cette série où ils défendent plus et ils jouent un basket plus simple et plus. Ils sont plus coachables aussi. Harden, est-ce que Atkinson doit beaucoup plus coacher Harden? Peut-être, hein, tu vois, genre, quand je dis coacher, ça veut pas dire l'enlever du terrain ou quoi, mais juste lui imposer des systèmes où il doit jouer sans ballon. C'est plus le système Harden, là, on le voit bien, tu vois. Mais pour venir dans le sens de ce que tu disais, il y a un truc aussi dont on n'a pas encore parlé, mais qui est important pour les Cavs, c'est que là, à Détroit, moi, je m'étais mis, après le Game 1, je m'étais mis en note. Je m'étais mis pour les Cavs, qu'est-ce qu'il y avait à faire et tout. J'ai dit, est-ce qu'on peut éviter de boire le bouillon dans les 10-15 premières minutes, tu vois. Au match 1, il y avait à la fin du premier quart-temps, il y avait genre 30 à 15, tu vois. Un truc comme ça déjà pour les Pistons. C'est relou. Et là, un peu moins pire dans le Game 2, mais quand tu regardes la courbe des écarts du match, ils sont devant en fait tout le temps, les Pistons, tout le temps, à part à ce petit moment où les Cavs passent devant au début de quatrième quart, mais sinon ils sont devant tout le temps.
Oui.
En fait, les Cavs se font rentrer dans la bouche en entrée de match parce qu'ils démarrent les matchs et les Pistons, eux, ils sont déjà en mode on va défendre dur, on va leur rentrer dedans, et pour peu qu'il y ait un ou deux petits calls, un ou deux no calls justement sur un truc où Oscar Thompson, il a été un peu limite, mais l'arbitre a pas sifflé et bim, contre-attaque, un point, un panier, deux paniers, trois paniers et boum, ça y est, t'as 8 points de retard tout de suite. Et ça, c'est dans le coaching, c'est dans la préparation du groupe, mais c'est aussi les joueurs. Genre, ça va, Harden, il en a disputé je sais pas combien des séries de playoffs, Donovan Mitchell aussi, et même Allen et Mobley, genre pardon les gars, à un moment donné.
Mais même Schroeder, Strauss et tout.
Voilà, c'est pas normal qu'ils se fassent rentrer dedans de la sorte encore au Game 2, alors qu'ils ont perdu le Game 1 en étant menés dès le premier quart-temps et qu'en gros le niveau de réaction soit faiblard.
Oui, c'est ça.
Et donc, je sais pas quel joueur faut mettre, mais je pense qu'il faut tous les prendre là et leur dire, les gars, enfin, vous le savez, les mecs vont vous rentrer dedans d'entrée de match, quoi.
Oui, et c'est vrai. Et ça me fait penser à il y a 3-4 ans, j'ai l'impression, je sais plus la date, peut-être que tu t'en souviendras mieux que moi, mais les Cavs, dirigés par J.B. Kerstaff, étaient une équipe de Big Dog. Enfin, je veux dire, ils avaient une forte identité justement dans leur intensité globale.
L'année où ils se font fumer par les Knicks, là?
Je crois.
Parce qu'en playoff, on a vu les big dogs arriver. C'était des petits, teckels. Hein.
Ça miaule. Ça miaule fort, les Dachshund.
Parce qu'on était au Grand Rex et les fans d'Enix ont passé la soirée comme ça, les mecs.
Bien sûr. Wow. Tout va bien. On passe tranquille. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, en l'état, je pense que s'il y a une. Ce n'est qu'un détail, hein, mais en l'état, je pense que s'il y a une embrouille, c'est Dennis Schroeder, le leader de la troupe. Et c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que Détroit.
Ah, Détroit, laisse tomber, il y a que des gardes du corps.
Détroit, ils sont 8.
Ah, il y a que des gardes du corps. Hein.
Ils sont 8 à vouloir rentrer dans la gueule d'eux. Et ça me fait penser à Popovich qui disait I want some nasty. Je trouve que ces Cavs ne répondent pas à cet affrontement athlétique et physique pour le moment qui est imposé par les Pistons. Et c'est très bien joué de la part de Détroit. Qui en plus, Détroit, il faut le dire, hier soir, est dans le match qu'ils doivent prendre. C'est le match où tu es à 50% à 3 points. Ça déroule. Hein. Là, ils sont à 14 sur 28, je crois, à 3 points sur le match. C'est un soir où ça shoot très très bien. Ouais, 14 sur 28, ouais. Pendant que Cleveland est à 7 sur 32.
Alors ça, c'est un bon point pour les Cavs. C'est un bon point. C'est-à-dire que par exemple, ok, parce que moi, je ne les vois pas jouer contre nature. Ce n'est pas une équipe qui, demain, va devenir une équipe de bad boys, sans mauvais jeu de mots, par rapport aux Pistons.
Ah non, je te confirme.
Ils ne sont pas obligés de se faire rentrer dedans comme ça, mais ils ne vont pas devenir le Magic ou je sais pas, les Bucks de la grande époque ou quoi. Tu vois, c'est mort, ça. Ça n'arrivera pas. Ou le Thunder, tu vois. Ils ne vont pas devenir ça. En revanche, ils doivent être plus prêts à ce défi d'intensité, ce défi physique d'entrée de match, surtout d'avoir être plus prêt. Oui. Et ensuite, ils doivent s'appuyer sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire mieux. Ils peuvent défendre un petit peu mieux, oui, mais surtout, ils peuvent mieux attaquer. Vraiment, ils peuvent mieux attaquer, oui. Genre, mais vraiment beaucoup. Là, ils ont perdu 2 matchs de 10 points. Genre, il y avait grave 10 points de plus à marquer pour les Cavs sans aucun problème.
Oui, tout à fait.
Vraiment. Et donc, à un moment donné, c'est aussi ça le basket. C'est bien que sûr. Tu dois travailler sur ce que tu peux faire mieux.
Cleveland retourne à la maison. Pour le moment,
deux matchs avec Cleveland.
Ce n'est que hypothétique un match dans lequel les Cavs mettent 105 points sur ces Pistons. Attention, hein, il faudrait.
Ouais, mais il va falloir en passer mais par là.
Il va falloir passer par là parce qu'en plus, désolé contre nos amis de Détroit, hein, qui sont formidables, qui ont fait une belle régulière collective, etc. Mais on l'a dit et répété, dans une série où on monte dans les 112, 115, 117, c'est un match des Cavs.
Bah. Normalement, oui.
Tous les jours.
Voilà, après, les Pistons viennent de mettre 211 puis 107.
Voilà.
Non, le problème, c'est qu'ils mettent que 97
points. Mettent que 97
points,
c'est pas
match.
Possible. Est-ce que, quand on va à Cleveland, là, tu parlais de certaines rotations à affiner, le fait de devoir coacher un peu plus dur certains gars, de notamment demander d'aider Evan Mobley, de demander à Harden de jouer un peu différemment. Est-ce qu'on pousserait pas aussi un peu, s'il y a des bons stops défensifs, de la transition côté Cavs, c'est-à-dire éviter d'attaquer sur une défense qui est très bien en place. C'est une
pourquoi
des trois meilleures défenses de la NBA des trois cette saison. Peut-être que si tu pousser un petit peu le tempo, tu permettrais à certains joueurs d'être un petit peu plus en rythme à 3 points.
Oui, bien sûr que ça, c'est sûr que. Mais pour ça, il faut faire des bons stops et puis il faut prendre des rebonds. Enfin, ça démarre d'autres. Ouais. Voilà, tu vois, genre. Donc, oui, sinon, oui, bien sûr. Même si c'est pas forcément le jeu des cases, moi,
c'est pas leur nature.
S'il y a des points à prendre en transition, il faut les prendre, c'est évident. Moi, c'est plus sur le mouvement de balle sur demi-terrain où là, déjà contre les Raptors, il y a eu des moments où on s'est dit ouh là 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 là, attention, mais c'est passé. Là, contre les Pistons,
c'est très prévisible.
Un petit peu plus expérimenté, un meilleur joueur offensif pour leader tout ça, je veux dire, sans faire offense à Scotty Barnes, en attaque pure, Kate Cunningham, c'est quand même un délire. Tu
il
vois
est en train de nous faire des playoffs.
Voilà. Et donc, il y a un moment donné où il est passé où le mouvement de balle qu'on a pu voir des Cavs par moment et tout. Enfin, tu vois, là, ça manque de shoot ouvert, ça manque d'extra pass, ça manque de spacing. Alors, ça se joue dans les rotations de Kenny Atkinson où, à mon avis, il y a plusieurs fois, il met des 5 sur le terrain où ça n'a pas de sens. Et c'est même bizarre parce que c'est quand même un coach expérimenté et tout. Donc, est-ce qu'on n'avait pas bien vu ? En fait, il est mauvais, Kenny Atkinson. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, non. Je pense
pas. Non,
pas.
Mais en tout cas, sur les deux premiers matchs, là,
il est en train de se faire
d'un côté.
Coach, hein. Ah bah là,
il est mieux préparé d'un côté versus de l'autre. Tout à fait.
Et donc, le mouvement de balle me paraît très important pour apporter du spacing, réouvrir des lignes de drive à des mecs comme Harden. Mitchell, il a réussi à en trouver quelques-unes, mais il doit vraiment puiser. Un mec comme Harden a besoin qu'on en lui ouvre un peu plus. Et trouver plus de shoot ouvert pour des mecs comme Struss qui est capable de les mettre dedans, ou Dean Wade, ou même Jalen Tyson. Enfin, ils ont pas mal de mecs capables de mettre dedans, quoi. Ouais, ouais. Donc,
faut surveiller
mouvement
notamment
de balle
la...
et spacing, en gros, retravailler offensivement. Oui. Essayer de durcir le défi physique et la défense, mais wow, offensivement, les Cavs, là, ils peuvent vraiment faire mieux.
Ouais, clairement. On va surveiller notamment la situation physique de Sam Merrill, qui est un des gros snipers de Cleveland qui, ouais, qui n'était pas là et qui était sorti.
Non, il n'a pas joué au game 2.
C'était un peu flippant sur le game 1 quand il est sorti. Ouais. Un peu, tu as senti que si ça se trouve, il y en a pour 10 jours. 10 jours, c'est une série. Hein.
Après, si tu attaques comme ça et qu'il n'y a pas de spacing, c'est pas Merrill qui va changer grand-chose.
Non, tout
à fait. Mais oui, oui.
Ça
fait
partie un petit peu des offres. Il faut voir comment est-ce que Kenny Atkinson va aborder son effectif, parce que oui, comme on l'a dit, un mec comme Ron Holland, qui sait qu'il n'est pas trop utilisé sur la première série, lorsqu'on lui dit tu rentres, c'est ton moment, tu
il
y
est
vas,
taquet.
Il est prêt et il sait comment ça doit se passer. Ouais. Donc on n'est pas là pour les égos, on remporte collectivement le match. Alex, déjà première question, est-ce que les Cavs vont retourner à Détroit?
Oh bah oui. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Hey, tu veux que je jette Babar dans la caméra là?
Evan Mobley?
Non,
t'avais dit qui? C'était qui? Et Chet Holmgren, pardon.
C'est Chet Holmgren, mais
Chet Holmgren,
on en parle.
La caméra.
Mais
on retourne à combien à Détroit?
Parce que là, quand tu vois les deux premiers matchs, tu te dis que Détroit, ils vont arriver à Cleveland. Alors les gars, si on repart pas avec au moins un des deux matchs, on est des merdes. T'es Détroit. Là, tu vas à Cleveland. Tu dis, les gars.
Tu peux nourrir des énormes regrets.
Tu dis, les gars, on va repartir avec une win. T'as très envie. Donc énormément de choses vont se jouer au match 3. Abonnez-vous si vous voulez plus d'analyse.
Et attention, le match 4 pourrait être très important.
Surtout si les Cavs perdent le match 3.
Oui, si c'est un match éliminatoire, ne le loupez pas.
Non, moi je pense qu'il va y avoir 2-2.
Oui, je suis d'accord.
Mais alors, je suis pas serein. Hein.
Mais moi non plus. Et puis les fans
je
de Détroit.
Je fais pas mon malin.
Mais pareil, et puis les fans de Détroit peuvent nous dire aussi, genre, les gars, doucement, vous avez dit Cavs win sur la série, là vous dites qu'il y a 2-2. Eh,
hey, faut bien qu'à un moment donné les Cavs ils se réveillent.
Allez,
si de toute façon s'ils se réveillent pas là, voilà, ça va aller très vite cette affaire, parce que là t'as besoin d'un vrai gros match 3, le gagner pour te remettre un peu en selle et vraiment une cavalanche au match 4.
Absolument.
Tu vois, un truc dans ce genre là. Et ou une cavalanche au match 3 et un match 4 à l'arraché. Mais t'as besoin, t'es à la maison, leur public va les pousser, les fans vont être derrière, la série elle est pas finie. Hein.
Oui,
voilà.
Tout à fait. On a vu des séries qui démarrent par 2-0 et reviennent très vite à 2-2 parce que tout bascule à domicile. Et donc notamment, on rappelle que ce sera à 21h samedi le Game 3, c'est immanquable. Si vous voulez regarder notamment Oscar Thompson être complètement fou là, c'est magnifique de voir Amen dans le public soutenir son frère.
Ouais.
Et lui ce qu'il fait avec toutes les légendes des Pistons qui sont au premier rang là, c'est... on verra à Cleveland comment ça se passe. On bascule ?
Ouais, on bascule.
On va du côté d'Oklahoma City ou plutôt du côté de Los Angeles puisque la série va aller en Californie.
Ouais.
On a vécu deux premiers matchs avec deux profils assez différents. Deux matchs, deux victoires d'OKC. Avec une...
Deux fois de 18
avec une marque assez bien répartie. Par quoi tu as envie de commencer en parlant de cette série? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Shai Gilgeous-Alexander score pas du tout comme d'hab. La défense des Lakers sur lui.
Le plan de jeu des Lakers,
franchement, il est vraiment pas dégueu.
Sur deux matchs, c'est...
Ils font vraiment chier Shai Gilgeous-Alexander. Donc Shai Gilgeous-Alexander, au match 1, il a pas pu scorer comme il voulait. Et au match 2, il a carrément eu des problèmes de faute, machin et tout. Enfin, il est en galère. Il se fait même cibler de l'autre côté du terrain et tout. Et alors donc Shai Gilgeous-Alexander, vraiment c'est pas comme d'habitude quoi, il score pas comme d'habitude et tout. Par contre OKC gagne comme d'habitude, hein. Puis alors avec des écarts de comme d'habitude. Donc ça c'est très très inquiétant pour les Lakers.
T'as aucune marge d'erreur.
Bah non, c'est même pas que t'as aucune marge d'erreur, c'est que je sais même pas comment t'as de la marge pour espérer.
Non, mais t'as aucune marge d'erreur parce que ce que je voulais dire par là,
c'est un truc de fou quoi.
Bien sûr, ce que je veux dire par là, t'as aucune marge d'erreur, c'est que les Lakers, honnêtement, t'es fan et tu regardes ce qui s'est passé sur les deux premiers matchs. Putain, c'est compliqué quand même de faire nettement mieux.
Ah
parce
si,
que
tu peux te dire, putain, Marcus Smart rentre tes tirs, ou Austin Reeves, il a vraiment raté son premier match.
Oui.
Il a montré au match 2 qu'il était grave capable de scorer sur cette défense.
Mais ce que je veux dire par là, c'est
toujours avoir des regrets. Mais oui.
Tu
non,
peux,
ils font pas des mauvais matchs.
Ils font pas des mauvais matchs.
Non, je suis d'accord.
Sur les deux premiers. Et notamment là, sur celui d'hier soir.
Sur le deuxième surtout.
Putain.
Ouais, la première mi-temps. Ouais. Moi,
tu mènes à la mi-temps.
De 1 point.
Tu as quasi 60 points mis sur ce Thunder.
Rui Hachimura, il est on fire. LeBron, franchement, respect à LeBron.
Bah oui.
Franchement, sur les deux premiers matchs.
Austin Reeves qui sort de sa boîte hier soir. Il y a des petits push shots de Jackson Hayes. Il y a des garçons qui essaient de contribuer. Tu te dis, bon, allez, on va essayer de bien jouer. Sur le troisième quart, certes, ça prend un peu d'écart, mais tu es quand même pas très très loin.
Oh, t'as pris cher quand même au troisième quart.
Et tu prends très cher
du match 2 là.
Thunder, oui,
match 2, t'as pris cher hier. Là.
Mais ces Lakers là, pour moi, sur la rencontre. Oui, tu peux toujours, c'est normal, en tant qu'observateur ou fan, de se dire on aurait bien aimé plus de ceci et cela, mais ce que je veux dire par il n'y a pas marge d'erreur, c'est que OKC a été plutôt bien défendu pendant on peut dire, pas sur 36 minutes, 3 quarts temps, mais sur une bonne partie du match. les mecs, ils ont un énorme run. Et derrière, pour essayer de recoller, c'est terrible.
Mort. C'est mort.
C'est terrible.
Et pourtant,
tu peux pas.
Ils sont revenus. Hein. Il y a un moment où LeBron, ouais, dans le quatrième quart, il met un super drive avec une, oui, finition main gauche de grand malade mental. Et dans la foulée, il met un 3 points. Ouais, ils reviennent à moins 5, moins 6. Ouais, ils reviennent, ils recollent un peu. Ils se battent bien. Rui Hachimura fait vraiment deux très bons premiers matchs. Marcus Smart, super en défense. C'est vrai que le tir rentre pas trop, donc ça fait mal. Mais là, au match 2, t'as Austin Reeves qui est assez en forme et tout. Bon. DeAndre Ayton, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Elles sont passées où, les mains de DeAndre Ayton? Quelqu'un lui a coupé les mains ou quoi? Parce que normalement, il a des meilleures mains que ça. Là. Moi, il me déçoit en attaque. Limite en défense, au rebond, pourquoi pas. Mais en attaque, là, il rate des vrais trucs qu'il doit mettre, quoi. Ouais. Qui ferait du bien, quoi. Chet Holmgren, c'est pas un mec sur lequel il est facile de scorer. C'est pas ce que je dis. Mais. Oh là là, Chet Holmgren, il fait une série. De toute façon, Shai Gilgeous-Alexander, je veux dire, est tout juste top 3 des meilleurs joueurs d'OKC depuis le début sur les deux premiers matchs. Hein.
Oh oui, sur le début de
la série. Holmgren et AJ Mitchell déjà. AJ Mitchell. Ouais.
Exceptionnel.
Troisième quart, il est titulaire, hein, AJ Mitchell, parce que comme il n'y a pas Jalen Williams, ils ont décalé un peu le truc. Mais troisième quart, dès le début du troisième quart, il reste plus de 10 minutes dans le troisième quart. Shai Gilgeous-Alexander prend sa quatrième faute. Une flagrante en plus. Enfin, non, la flagrante c'était avant.
C'était avant, mais bon.
Bref, il prend sa quatrième. Le match il est tout serré, hein. Genre il y a vraiment, c'est quasiment score égal et tout.
Pas de pression.
Et là, AJ Mitchell, ça se voit, tranquille. Les systèmes sont pour lui. L'autre il commence à faire que des bons choix. Déjà il avait fait une bonne première mi-temps, hein. Mais là, que des bons choix.
Ouais, il est magnifique.
Et vas-y que je drive au bon moment. Et vas-y que je la kick out au bon moment. Et oh tiens, le coach il fait rentrer Jared McCain. Merci Philadelphie. Bah tiens, je vais le servir parce qu'il shoot bien quand même, Jared McCain.
J'allais dire, c'est que McCain.
Ils ont mis un écart avec Shai Gilgeous-Alexander sur le banc pour des problèmes de faute. Ils ont mis un écart.
Tu n'as pas de marge. Ils ont la profondeur. Jalen Williams plante ses 3 avec la faute. Cason Wallace, pareil, ça dégage.
Super Cason Wallace.
Caruso, pareil, qui fait les bons moves, notamment lorsqu'il y a des traps sur Shai, lorsqu'il faut choisir en 4 contre 3.
Écœurant.
C'est parfait, ouais, c'est parfait ce qui est fait. Ouais. Vraiment, la profondeur d'OKC, là, t'as deux premiers matchs, pas level MVP de la part de Shai Gilgeous-Alexander.
Non, mais pas level du tout, quoi.
Pas level
c'est
du
pas
tout.
Du tout
Jalen Williams qui est absent. Ouais, t'as deux victoires de 18 points. Au secours. Et vraiment, ce sentiment pour moi de tu n'as pas de marge, c'est si t'es très très bon pendant 35 minutes, que tu te dis allez les gars, on tient un peu, et que t'as Jared McCain, AJ Mitchell, Chet Holmgren, du Bo Hartenstein aussi, et Jalen Williams. Ça y est, en fait, tu regardes le score et tu fais « Oh putain, il y a plus 16 !» Et j'ai vu la tête de Redick quand il demande temps mort parce qu'il y a plus 11. Ouais. Ça y est, il se dit « On
chier.
Était là
ouais. !»
On était dans le rétro et il sait ce que ça représente de revenir de 11 points à OKC. Okay,
t'as complètement raison. Et la marge des Lakers, malheureusement pour eux, hier soir, elle est en jean et en t-shirt blanc sur le banc, quoi. Hein, c'est Luka Doncic, elle est là.
Oui.
Je veux dire, dans le sens où c'est pas… Je dis pas qu'il fumerait OKC avec Luka Doncic, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais là, par exemple, sur un match comme hier soir… Dans le troisième quart, quand ça boit le bouillon, ça se voit. LeBron, il essaie de calmer et de prendre les ballons. Sauf que du coup, quand il prend les ballons, tu n'as plus sa gravité hors ballon. Parce que ça fait grave chier la défense d'OKC depuis le début. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour faire LeBron. C'est un screener qui joue sur short roll. Du coup, c'est LeBron James qui prend des décisions en tête de raquette. C'est que ça, même la défense d'OKC, elle est dans la merde. Tu vois
sûr,
c'est pour ça que Rui Hachimura, il y a des fauteuils de grand malade. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des décisions de ouf. Mais là. T'as besoin de Marcus Smart et Luke Kennard pour porter le ballon ou un peu d'Austin Reeves. Et là, on les aime bien, hein, mais c'est pas Luka Doncic.
Non, c'est...
Hein. Donc, c'est, leur marge, elle est aussi là où les Lakers, les pauvres, c'est pas. Enfin voilà, c'est.
Il y
c'est
aurait
jeu.
Série. Il y aurait série avec Luka.
Leur meilleur joueur est pas là, quoi.
Il y aurait série.
Donc, il y aurait avec série. Ouais. Là, ils essayent, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait une série quand même. Première mi-temps vraiment réussie. Deuxième mi-temps, il n'y a rien à faire. Et c'est vraiment le banc qu'il est. Enfin, le banc. C'est. Un peu le banc, parce qu'en fait, AJ Mitchell à la base, c'est pas un titulaire, c'est un mec qui vient du banc. Cason Wallace, McCain fait très mal, Caruso fait très mal. Vraiment, tu l'as bien dit, quoi, la profondeur de KC,
c'est
terrible,
défonce. Terrible, terrible. Et c'est marrant, en 24 heures, on passe de ça manque de jus à Philadelphie, ce serait bien d'avoir un impact en sortie de banc, quelqu'un qui peut dégainer fort quand c'est difficile offensivement. Le lendemain, on est à OKC, il y a Jared McCain qui fait un match exceptionnel. Il y avait déjà le running gag Isaiah Joe. Là, Jared McCain, c'est parfait. Parfait. Moi, j'ai l'impression qu'il joue à OKC depuis 8 ans et demi. C'est parfait. Ouais, il sait exactement quel est son rôle. Mets ton vernis.
Il faut voir les ballons qu'il reçoit aussi.
C'est parfait. Tout le monde. En fait, comme un petit peu on a parlé avec Détroit, tout le monde connaît son rôle et sait ce qu'il doit faire. Et vu que tu fais ça pendant 48 minutes avec intensité à OKC, c'est atroce. Tu as un moment où tu lèves légèrement le pied de l'accélérateur, ils t'en mettent plein la gueule.
Ouais.
Et donc, je voulais juste te poser la question sur le Game 1, à la limite, je peux l'entendre, mais sur le Game 2, il y a 125-117 sur la feuille de match.
Tu peux pas en prendre 125 quand t'es les Lakers, c'est trop.
Et
Par
j'allais te
rapport au
demander.
potentiel offensif que tu as réellement. Parce que là, les Lakers font un bon match au tir. Mais les stats au tir.
Les Lakers, ils sont à 50% au tir et 38% à 3
Tu
points.
vois?
Ouais, bien sûr.
Donc, je veux dire, là, pour le coup, avec un Marcus Smart qui est pas très en forme, et surtout un DeAndre Ayton, putain.
Au score.
Vraiment, sincèrement, j'insiste sur lui parce que c'est des petits paniers. C'est des petits hooks, des petites choses où il monte comme un gros softie et il se fait contrer ou il se fait piquer.
Bah, c'était plus facile dans la raquette de Houston,
Il
du premier
gave.
tour. Alors
Ouais.
que là, parce qu'il avait été bon sur certains
Mais en
matchs de
fait, défensivement,
la
c'est
série.
pas minable. Et au rebond, c'est tout à fait correct ce qu'il propose. Mais là, vraiment, offensivement, ils ont besoin qu'ils soient un petit peu plus agressifs et qui, on dirait, il a peur de Hartenstein et de Holmgren, quoi. Ça va pas, ça.
Ce que j'allais dire par rapport à la feuille, la question que j'allais
Oui.
te poser, c'est il y a plus 18. Si tu te réveilles et que tu vois ça, tu es en mesure de te dire, bon, bah, le Thunder a déroulé, etc. Mais je trouve que l'écart final est un peu sévère par rapport à la façon dont ces Lakers sont joués.
L'écart final est sévère, surtout quand tu vois la première mi-temps des Lakers. Après,
C'est comme
genre
ça.
la deuxième mi-temps, les mecs ont mis la surmultipliée. Il y a
36-22 dans le troisième quart.
vraiment trop de moments où il n'y avait plus que LeBron et Austin Reaves qui réussissaient à
Ah ouais,
exister.
bien sûr.
Donc là, sur ce début de série, honnêtement, tu peux rien reprocher à LeBron James.
Non, non, mais
Genre rien. C'est
rien.
fou, mais rien.
Rien.
Vraiment, c'est ultra propre. Ne force pas trop. Mets les tirs qu'il faut mettre. Peut-être il pourrait aller chercher un peu plus de lancers et tout, mais ouah,
Ouf.
franchement,
Moi, j'ai
voilà.
même pas.
Non,
Franchement,
parce
vu
qu'il
les
a un
tueurs à
avantage
gages.
physique. Ouais, mais Lugansdorf est costaud, mais il est beaucoup plus grand et tout. Donc, mais bon, après,
Bah, je
voilà.
prendrais aucun
Doucement.
risque face à OKC,
Non,
LeBron.
ouais, voilà, mais enfin.
Mais oui, je comprends.
Voilà,
Peut-être
mais
qu'à
je
domicile
cherche la
aussi, il
petite
aura.
bête, mais vraiment, c'est extraordinaire ce qu'il propose sur les deux premiers matchs.
Bah, peut-être qu'à
Austin Reaves.
domicile, il y aura un peu
Ouais.
plus de choses dans son sens, LeBron.
Franchement, l'école.
Bon, hier soir, c'était au secours.
Hein?
La qualité globale, juste, de l'arbitrage sur le match d'hier soir, au secours, j'avais
Pas
envie
ouf. Les seuls bons calls qui ont été faits, c'est je trouve que j'étais même presque surpris, mais quand ils ont mis la flagrante à Shai, la flagrante quand ils tirent le bras là de Reaves, ils mettent la flagrante. Bon. Allez, pourquoi pas? Il y a un geste un peu dangereux, mais il lui prend le bras. Bon, ok. Et après, tu sais, il y a la main qui va vers le visage de
Ouais, ça
Chet
fait
où
un
Chet fait un énorme
chipping.
flop et tout. Moi, je m'attendais à ce que les arbitres mettent aussi une flagrante. Parce que,
Cohérence.
tu vois, parce que voilà. Et là, ils la mettent pas. En même temps, c'est un flop hein, de Chet Holmgren. C'est un flop de chez Flop. Le mec se tient la tête. On dirait Filippo Inzaghi, le mec. Franchement. Le mec se tient la tête. Tu vois le ralenti. Ça lui a à peine touché le torse. Bon, bref. Scandaleux. Mais au moins, les arbitres sont pas trop tombés dans le piège. Lui ont pas donné, tu vois, la flagrante. Et puis, OKC a même gâché. C'est là où ils gâchent leur challenge, OKC?
Je crois.
Ouais, mais et donc là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense qu'il y a tout un tas de petits calls qui ont donné des lancers à OKC ou qui auraient pu donner des lancers aux Lakers. Non, mais c'est pas pour dire les Lakers ont été désavantagés par l'arbitrage. Juste, moi j'ai remarqué parce que du coup on est attentif quand on regarde OKC, on est attentif à l'arbitrage, hein, parce qu'il y a ça discute arbitrage quand il y a
Oui,
OKC qui joue.
ouais.
Et j'ai trouvé à plusieurs reprises que les Lakers auraient pu avoir des lancers. J'ai trouvé aussi que sur certaines balles. Sur certains contacts, j'ai trouvé que on critique beaucoup les joueurs d'OKC et tout, mais j'ai trouvé qu'il y a 2-3 fois où ça obtient pas les calls du tout, côté OKC, notamment Holmgren. Donc c'est pas un très bon arbitrage, mais honnêtement, c'est pas là-dessus du tout que le match se
Absolument.
joue.
Non, non, moi en fait
Pas
là où je
du tout.
non, moi là où je voulais juste en venir, c'est que je trouve qu'il y a une appréciation pour la qualité des matchs, là notamment le Game 1 qu'on a eu entre San Antonio et Minnesota, ou celui entre là Détroit et Cleveland sur les deux premiers matchs où on se régale quand même. Là, t'en parlais, la qualité des matchs est assez intéressante. Enfin, moi j'aime bien. Juste, c'était pas très agréable à regarder là. On avait eu un match là au Madison Square Garden face à Philly ou pas. Il y a eu combien? Il y a eu 43 fautes qui ont été sifflées. Là, hier, je suis pas en mode genre il y en a eu trop pour OKC, il n'y en a pas eu assez pour Lakers, etc. Au global, la qualité d'arbitrage est pas bonne là. Et moi,
Dans le
j'avoue que
sens,
ça
tu veux
me.
dire, les calls sont pas bons ou il y en
Oui,
a
les calls
trop?
sont pas bons.
Ok.
Les calls sont pas bons. Et je trouve que ça gâche potentiellement certains matchs, mais bon, voilà, c'était juste mon passage là-dessus parce que je comprends certains qui se retrouvent très fatigués devant ça. Pour autant, il faut aller à Los Angeles. Il y a deux matchs à venir. Pour les updates, si certains se posent la question, on les a eus. C'est pas demain que le mec en jean et en t-shirt il va jouer, Alex.
Non, 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 c'est mort.
Luka Doncic.
Luka, il jouera pas.
S'il rejoue au basket, à mon avis, ce sera fin mai, début juin. Et si les Lakers en sont là.
Ah, si les Lakers sont encore là fin mai, début juin, écoutez, il y aura eu quelques apéros assez cool.
Et deux TBNL.
Ouais.
Mais on se retrouve devant deux matchs. C'est grimper l'Everest, là, pour les Lakers. Parce que OKC le sait.
Franchement, éviter le sweep, ça va être bien déjà.
Oui. Ok, si Alex le sait, le Game 3, c'est le match où tu enfonces la tête des Lakers.
Oui.
Est-ce que on va rejouer un match à Oklahoma City avec ces Lakers ou pas?
Je suis pas sûr, franchement.
Moi, j'ai
j'avais
peur
dit
que
quoi non. comme pronostic? J'avais dit 4-1 peut-être quand même.
Ouais,
je crois pas que j'avais
4-2.
Dit sweep.
Non, non,
t'as dit 4-2 toi.
Ouais.
T'es bien, toi, t'étais
parce que,
bah, optimiste.
L'approche de
non,
match des Lakers,
oui,
elle est formidable
fait,
sur les
bien,
deux premiers.
Je suis d'accord, mais il n'y a rien à faire.
Il y a 2 fois plus 18, qu'est-ce que tu veux faire?
Non, je suis d'accord. Attends, je regarde juste ma.
Encore une fois, hein, je peux pas demander mieux à Rui. Je peux quasiment pas demander mieux à LeBron. Allez, Smart peut mettre, mais Austin Reeves est sorti de sa boîte. Tu vas peut-être être un peu plus agressif à domicile et avoir quelques calls dans ton sens. Mais OK, ici, en déplacement. Les mecs sont allés à Phoenix.
4-1, j'avais dit, moi.
Ah ouais.
J'avais dit 4-1.
Ouais, sur ton prono.
Ouais. Ouais, ouais, non. Honnêtement, en plus, à la maison. On espère aussi que le public des Lakers va pousser un peu parce que pff, l'ambiance, elle est quand même assez cracra. C'est bien d'avoir des célébrités au premier rang, mais non, mais c'est bien. Moi, ça me fait marrer aussi. Ça fait partie du show et tout. Mais tu vois, il y a d'autres villes, par exemple à Détroit ou aux Knicks, quoi, chez les Knicks. Les célébrités au premier rang, elles vivent le match, quoi.
Ah bah, je te confirme.
Elles aiment le basket.
Ah ouais.
C'est marrant, du coup. Autant que t'es, quitte à avoir des gens courtside. Ok, c'est des gens blindés qui ont les moyens de se payer des sièges qui valent des années de salaire. mais au moins, ils sont dans le match, tu vois. À Los Angeles, bof, bof. Donc ça, on attend un peu le public là-dessus. Il y a vraiment... Et oui, il faut en gratter un des deux. Il faut en gratter un des deux et il faut aller jouer un match 5 à OKC.
C'est le 3 que tu dois prendre absolument.
Bah, idéalement, ouais.
Oh, mais même absolument. Ouais, parce qu'en fait, à 3-0...
Je suis pas sûr que ça change grand-chose dans cette configuration-là.
Ce que je veux dire par là,
dans
c'est que si tu remportes le 3... Ouais. T'es en mesure de te dire
allez
sur un game 4,
sait-on jamais.
Sait-on jamais. Mais s'il y a 3-0 avec une démonstrada de OKC, tu ouais. sais comment peut se passer le game 4.
Bah, surtout qu'en plus, là, il y a un problème pour les Lakers, c'est qu'ils n'ont pas encore subi de Shai Gilgeous-Alexander game.
Oui. Et
donc
ça,
attention à ça, parce que ça peut arriver. Hein,
et tu devineras jamais qui a fait un énorme game 3 à Phoenix au premier tour.
Bah oui, non, non.
Oh,
Shai,
putain, on était à Bordeaux, non?
Ouais. Monstrueux, il a mis 40 points.
Oh la vache, à 80% au tir, enfin c'était
face à des défenseurs tout à fait honnêtes. Hein.
Ouais, non.
Après les Lakers, leur plan de jeu est assez bon.
Mais c'est ça qui est
ils vont peut-être avoir un petit peu plus de call. Reeves vient de montrer qu'il pouvait scorer en prenant les tirs qu'il sait prendre, un peu difficile, mais lui il en met. Faut que LeBron maintienne ce niveau aussi parce qu'à un moment, enfin genre c'est attention. Et
pardon.
Puis enfin je sais pas, vas-y, DeAndre Ayton met quelques petits paniers,
ouais,
un ou deux trois points de Marcus Smart, ça peut jouer à pas grand chose au lieu d'être à 18. En fait, t'es dedans,
oui.
Encore dans le... J'aimerais bien voir une fin de match serré.
On aimerait bien un
fin de match serré avec Austin Reeves et LeBron. Tu peux peut-être le prendre.
Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on avait mentionné dans la preview. Ce qui est sûr, c'est que OKC, okay, si on l'avait mentionné en début des playoffs en voyant le tableau, il y a un scénario qui se précise dans lequel ils peuvent sweeper leurs 8 premiers matchs. Ce scénario existe.
Lakers 2001, on appelle ça.
Tout à fait.
Ouais, 2001.
Ouais, ouais,
ouais, 2001. C'est 2001.
Ah, ouais, je te confirme. Ouais. Ils ont perdu qu'un seul match. Fallait
c'est
qu'Iverson joue comme Dieu.
Il a fallu qu'Iverson en mette 48.
Oui, et il y a un autre scénario aussi. Et je sais qu'on est dans l'actualité. Donc on regarde les matchs soir après soir. Mais on ne sait pas encore combien de matchs de playoff va jouer LeBron James dans sa carrière. Donc, matez ça, s'il vous plaît. On est à 2h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche, si je ne dis pas de bêtises.
Je vais te dire, je l'avais sous les yeux tout à l'heure.
2h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche et 4h30 du matin dans la nuit de lundi à mardi. Voilà, si je dis pas de conneries, pif paf pouf. Voilà, on ne sait pas le pépère. Hein. Profitons-en aussi à fond parce que là, oui, c'est difficile, mais vu le niveau auquel il joue, profitons de chaque minute. Moi, c'est régalade en ce moment de le voir.
C'est régalade.
LBJ.
C'est régalade. Et puis, on va voir parce que Jalen Williams pourrait faire son retour. Il y a aussi ça, hein. Jalen Williams, autant Doncic, c'est mort. Jalen Williams, ça dit
tiens,
quoi,
toi
ça dit quoi le injury report, ça dit quoi?
Ils vont prendre leur temps.
Mais le 9 mai, potentielle date de retour, c'est quand le 9
c'est
mai
ce
c'est demain. voilà. Donc, Faut voir, hein, peut-être qu'ils vont pas forcer ou quoi, mais ça se trouve, il y a Jalen Williams, il est en train de warm-up au Game 3, hein, et genre il joue. Et là, pour LeBron, au passage, c'est pas la même.
Hein. Ah, tout à fait. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de ces deux séries, Cavs Nation, Pistons fans, Laker Nation et les amis du Thunder Up. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Ce soir, deux matchs. Très attendu, hein, Spurs Wolves à Minnesota, à Minneapolis. On va se régaler parce qu'il y a un
dans cette série, puis les Knicks qui ont l'occasion d'aller casser le moral des Sixers.
Tout à fait, avant le Game 4 qui sera donc à 21h30 dimanche, juste après cette fabuleuse loterie qu'on va donc commenter en direct. Ce sera à 20h30 dimanche. On vous fait des gros bisous, on vous attend dans les commentaires.
Ciao tout le monde.
Et à très vite sur YouTube.
Bonne journée, ciao.